L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand vous faites une photo ou une vidéo pour Instagram, TikTok, peut-être Facebook, et que vous voyez un pylône au milieu d'un paysage, vous allez discrètement tourner un tout petit peu votre appareil pour le faire disparaître. Finalement, quand on pense la nature, que ce soit la forêt, le désert, un paysage, quel qu'il soit, en réalité on le fantasme. On le fantasme comme un lieu intact, un lieu pur, alors qu'il n'y a plus sur la planète de lieu pur. C'est tout simplement lié, entre autres, à la culture, donc le fait qu'on ait créé des chemins un peu partout, par exemple, mais aussi à toutes les constructions humaines, mais aussi tout simplement liées à la pollution, qui ont des impacts même là où on ne va pas physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Lacroix. Alexandre, je l'ai déjà reçu sur Volant, c'est le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et il sort un ouvrage qui s'appelle « Au cœur de la nature blessée ». Et avec Alexandre, on va parler de ce que c'est que la nature, on va parler de l'esthétique des lieux, on va parler des couchers de soleil, on va parler de beaucoup de choses que vous vivez au quotidien. Vous verrez, ça peut sembler un petit peu dystopique, cette discussion, évidemment, parce que la réalité de notre action humaine fait qu'on abîme beaucoup la nature. Et en même temps, il propose une voie de sortie autour de l'esthétisme qui est extrêmement belle et extrêmement vigorante, je trouve. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va bien.
Ça va bien. J'ai une question pour vous, la première en tout cas, et qui est une question qui peut sembler un peu générale, mais je pense que ça va mener tout notre entretien. C'est quoi la nature pour vous ? Ça peut sembler un peu étrange de poser cette question, et en même temps, je pense que c'est important de la redéfinir.
La nature, c'est un terme qui fait débat dans le monde de la pensée écologique et le monde de l'écologie plus généralement. C'est contre-intuitif. On a l'impression, comme ça, si on s'intéresse pas à ce microcosme, que les verts ou les écolos aiment la nature. En fait, pas du tout. Il y a, depuis l'apparition du livre « Par-delà nature et culture » de 2005, une tendance à éviter l'emploi du terme « nature ». Donc, « Par-delà nature et culture », c'était un livre de Philippe Descola. Mmh. Et l'emploi de ce mot est évité parce que la nature ou le concept de nature aurait été construit entièrement en opposition avec celui de culture. Donc au début de la modernité, on parle du XVIIe siècle et plus encore du XVIIIe siècle, et aurait été pris dans cette opposition comme étant le substrat ou la chose qu'il fallait exploiter, maîtriser, dominer, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est une phrase qu'on trouve dans le discours de la méthode de René Descartes, donc 1637. Et on voit bien que ce projet de la modernité, eh bien, il a été mené à bien. La grande période extractiviste ou la grande période industrielle a systématiquement visé à cette exploitation de la nature, et que le programme de Descartes a été aussi rempli à la lettre, puisque Descartes pensait, à travers l'idée de constituer une philosophie pratique, nous on aurait dit des sciences et des techniques, Descartes pensait que le but premier devrait être d'améliorer, d'allonger l'espérance de vie, en fait, de maîtriser davantage la santé humaine. Et ce programme a été réalisé au XXe siècle, puisqu'au XXe siècle, l'humanité occidentale a gagné 40% d'espérance de vie grâce à l'hygiène et à la médecine. Donc, le terme de nature aurait été pris, si vous voulez, dans un projet de la modernité, et il serait à rejeter aujourd'hui au motif que nous devons sortir de ce schéma d'exploitation et de domination, de cette représentation mentale. C'est ce qui fait que les écologistes ou ceux qui adorent le vivant vont parler de biosphère, ils vont parler de land ethics, c'est-à-dire ils vont employer le terme de land qu'on peut traduire par terre, il n'est pas facile à traduire. Ils vont parler d'écosystème et ils vont éviter le mot de nature. Ils vont parler parfois de communauté biotique ou de trame du vivant. Ce serait le mot qu'emploierait Baptiste Morisot. Et le mot de la nature reste sur le côté. Moi, je fais partie de ceux, un peu pas les irréductibles gaulois, mais de ceux qui pensent qu'on peut maintenir l'usage du mot de nature à condition de prendre quelques précautions conceptuelles ou précautions de définition pour ne pas retomber dans certains errements ou certains travers de cette modernité que j'ai rapidement définie. D'abord, le terme de nature, il est intéressant parce qu'il vient d'une racine latine, nascor, qui veut dire naître, et il renvoie par là, non pas seulement à la natalité, mais à ce qui surgit au-devant de nous. On peut dire que le propre des entités naturelles, qui ne sont pas artificielles, qui ne sont pas voulues ni créées par l'homme, qui ne sont pas planifiées, c'est qu'elles se présentent à nous comme un surgissement de formes extrêmement diversifiées. Il suffit de se promener en forêt pour en faire l'expérience. La forêt, contrairement à la ville ou au parking ou au supermarché, nous fait l'effet d'une sorte de profusion, de prolifération de feuilles, d'arbres, d'espèces, d'insectes. Tout cela est entremêlé, entrelacé de manière très complexe. Et Nascor nous raconte quelque chose de ce dynamisme. Et par ailleurs, moi je m'intéresse à une dimension qui me semble importante dans l'expérience quotidienne qu'on peut avoir. Moi, je m'intéresse à l'esthétique, à la relation esthétique qu'on peut avoir avec les entités naturelles, à la manière dont on se place en face d'un animal, d'un arbre, d'un paysage, et à la manière dont l'humain se met à avoir des émotions esthétiques devant le non-humain. Donc, esthétique, le mot est construit sur sensation. Par esthétique, j'entends en fait tout le rapport sensible et émotionnel que nous pouvons construire avec les entités naturelles non humaines. Et de ce point de vue-là, le mot de nature en esthétique, on en a besoin, même si il a un peu d'imprécision. De même qu'en esthétique, on va parler de paysage, ce qui, du point de vue de la géographie, n'est pas un terme très précis, le mot de paysage. On va avoir tendance à parler de nature, parce que si vous dites que Monet a peint avec sa mare un écosystème,
c'est moins poétique.
Comment ?
C'est moins poétique.
Et surtout, ça n'est pas vrai. Si vous dites que Turner peint des biosphères ou des phénomènes météorologiques, ça n'est pas tout à fait vrai. Le problème, en fait, de l'écologie quand elle rejette le mot de nature, c'est qu'elle se retrouve avec le vocabulaire de la biologie et des sciences naturelles, biosphère par exemple. Et ce vocabulaire n'est pas tout à fait adéquat quand on veut parler de la relation esthétique aux entités naturelles.
Moi, j'ai l'impression, ce que j'entends surtout, enfin, l'un des débats que j'entends beaucoup dans le débat écologique, c'est de se dire la nature, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est qu'on en fait partie, en fait. Et je pense qu'il y a cette première étape de comprendre. Enfin, j'ai l'impression que il y a des, parce qu'en fait, le vocabulaire qu'on possède, la langue, est, donc on s'exprime avec des idées qui sont liées à la langue qu'on possède, évidemment. Donc, on parle de